Sainte Thérèse d'Avila, Le chemin de la perfection, écrit pour les religieuses déchaussées de Notre-Dame du Mont-Carmel. Prologue. Jésus. Les sœurs de ce monastère de Saint-Joseph ont appris que mon confesseur actuel, le père présenté, frère Dominique Bagnès, de l'ordre de Saint-Dominique, m'a permis d'écrire quelques pensées sur l'oraison. Elles ont pensé que, ayant traité avec beaucoup de personnes spirituelles, je pourrais accomplir parfaitement ce travail, et m'ont tant sollicité de le faire que je me suis décidé à leur obéir. Si mon travail n'est pas bon, le père présenté qui doit le lire le premier, le corrigera ou le brûlera. J'ai pour but d'indiquer quelques remèdes à certaines faibles tentations du démon auxquelles on ne fait pas attention, justement parce qu'elles sont peu fortes. En outre, je parlerai d'autres points selon que Dieu m'en donnera l'intelligence ou qu'ils se présenteront à ma mémoire. Comme je ne sais pas ce que je vais dire, je ne puis l'exposer avec ordre. Je pense d'ailleurs qu'il vaut mieux ne pas en être. Le fait de me mêler, d'écrire sur ce sujet est déjà si contraire à l'ordre. Que le Seigneur m'aide dans cet écrit, afin qu'il soit conforme à sa sainte volonté. C'est mon seul désir, quoique mes œuvres aient autant d'imperfections que moi. L'amour et la bonne volonté ne me manquent pas. J'en réponds pour aider autant que je le puis les âmes de mes sœurs à faire les plus grands progrès au service de Dieu. Mon amour pour elles, mon âge et l'expérience que j'ai de quelques monastères me feront mieux réussir à traiter de quelques petites choses que les savants qui ont de graves occupations et sont des hommes forts, qui ne s'intéressent pas autant que nous à des choses très petites en soi, mais qui peuvent nous nuire à nous, femmes, qui sommes si faibles. D'ailleurs, les démons utilisent, contre les personnes vivant dans une étroite clôture, un grand nombre de pièges, car il lui faut des armes nouvelles pour leur nuire. Pour moi, qui suis si misérable, j'ai mal su me défendre. Aussi je désire, mes sœurs, tirer profit de mes fautes. Je ne dirai rien que je ne sache par expérience personnelle ou que je n'ai vu dans des autres. Je le supplie, le Seigneur, de mettre la main à cet écrit et de le diriger pour sa plus grande gloire. Amen. Chapitre 1. J'ai raconté dans le livre dont je viens de parler, sa vie, les motifs qui m'ont résolu à faire cette fondation et les faveurs par lesquelles le Seigneur a manifesté qu'il y serait très fidèlement servi. Ayant appris vers cette époque par quelles effroyables souffrances passait la France, les maux qui avaient fait les luthériens et l'étendue qui prenait la malheureuse secte, j'éprouve un profond chagrin. Comme si j'eusse pu ou j'eusse été quelque chose, je répandais mes larmes aux pieds du Seigneur et le priais instamment d'apporter un remède à tel mal. J'avais le sentiment que j'aurais volontiers sacrifié 1000 vies pour sauver une seule de ces âmes qui s'y perdaient, si nombreuses. Mais étant femme et bien imparfaite encore, je me sens impuissante à ce que j'aurais voulu pour la gloire du Seigneur. Tout mon souhait était que, puisqu'il avait tant d'ennemis et si peu d'amis, ceux-ci lui fussent au moins dévoués. Je me résolus donc à suivre les conseils évangéliques dans toute la perfection possible et à inviter au même genre de vie les quelques religieuses de ce monastère. Mes compagnes correspondaient à mes désirs. J'espérais contenter Dieu en quelque chose. Nous nous mettrions toutes en prière pour soutenir les défenseurs de l'Église, les prédicateurs, les savants qui la défendent. Ô mon Rédempteur, je ne puis voir ce spectacle sans que mon cœur en soit brisé de douleur. Que sont devenus aujourd'hui les chrétiens? Ceux qui vous offensent davantage seraient donc ceux que vous obligez le plus, ceux qui reçoivent de vous le plus de bienfaits, que vous prenez comme amis afin de vivre en leur compagnie et que vous favorisez de grâce par les sacrements. En vérité, mon Dieu, ce n'est pas un très grand sacrifice aujourd'hui de se séparer du monde. Puisqu'il vous est si peu fidèle, quand pouvons-nous attendre? Lui avons-nous donné des marques de dévouement, telles qu'il nous garde son amitié? Qu'attendons-nous donc de lui, nous qui par la bonté de Dieu sommes à l'abri de cette compagnie pestilentielle, tandis que les pauvres âmes qui s'y trouvent sont déjà sous la puissance du démon? Les faux plaisirs qu'ils goûtent ne les mènent-ils pas au feu éternel? Je ne puis voir tant d'âmes qui se perdent sans que je sois brisée de douleur. Je voudrais que le nombre des réprouvés ne s'augmentât pas chaque jour davantage. Ô mes sœurs en Jésus-Christ, aidez-moi à aider cette prière, à adresser cette prière à Dieu. C'est pour cette œuvre qu'il vous a réuni ici, c'est là votre vocation. Tels doivent être l'objet de vos aspirations, le sujet de vos larmes, le but de vos prières. Non, mes sœurs, nos affaires ne sont point celles du monde. Je me sens tout attristée quand je vois des personnes qui viennent me demander de prier pour que Dieu leur accorde des rentes ou de l'argent. Lorsque je voudrais les voir lui demander la grâce de fouler aux pieds tous les biens de la terre, Ma conviction intime est que Dieu n'écoute jamais lorsque nous lui présentons pareille requête. Je serai heureuse que l'on comprenne que ce sont des choses que l'on ne doit pas demander avec tant d'ardeur. Chapitre 2. Ce chapitre montre comment on ne doit pas se préoccuper des nécessités temporelles. Ne croyez pas, mes sœurs, que c'est en ne contentant pas le monde que vous n'auriez pas de quoi manger. Ne cherchez jamais votre nourriture par des artifices humains, sinon vous mourrez de faim, et ce ne sera que justice. Regardez votre époux, c'est lui qui doit vous procurer le nécessaire. S'il est satisfait de vous, les personnes qui vous sont le moins attachées viendront à votre secours malgré elles. Travaillez donc à lui plaire, et si malgré cela vous venez à mourir de faim, je dirais heureuse les sœurs du couvent Saint-Joseph. Pour l'amour du Seigneur, n'oubliez jamais ce point, puisque vous avez renoncé à posséder des revenus. Renoncez aussi à toute préoccupation du temporel, sinon vous perdriez tout. Que ce qui, par la volonté de Dieu, en dispose, est une telle sollicitude, à la bonne heure, c'est très juste, ils sont dans leur voie. Pour nous, mes sœurs, ce serait un acte insensé. Nous préoccuper des rentes du prochain, c'est selon moi songer à ce qu'il y a hors votre sollicitude sur ce point, ne changerait pas sa pensée et ne l'inspirera pas à vous faire l'aumône. Laissez un pareil soin à celui qui peut toucher tous les cœurs, au maître des rentes et des rentiers. C'est à son appel que nous sommes venus ici. Ses paroles sont la vie, elles ne manqueront pas de se réaliser, le ciel et la terre paraîtraient plus tôt. Ne lui manquons pas nous-mêmes et ne crions non pas qu'il nous manque. Si un jour il nous délaissait, ce serait pour notre plus grand bien. N'a-t-il pas permis que les saints perdissent la vie pour lui? Il avait alors pour motif d'augmenter la gloire pour le martyr. Quel heureux échange, s'il vous était donné d'en finir rapidement avec toutes les choses de ce monde et de jouir pleinement des biens éternels. Envisagez, mes sœurs, combien cet avis est important. Voilà pourquoi je l'écris ici, afin que vous vous en rappeliez après ma mort. Tant que je serai sur terre, je ne cesserai de vous le redire. Moins nous possédons, moins j'ai de soucis. Le Seigneur ne l'ignore pas. J'éprouve plus de peine lorsque les aumônes vont au-delà du nécessaire que lorsque nous manquons de l'indispensable. Nous tromperions le monde s'il en était autrement. Nous serions considérés comme pauvres à ses yeux. Lorsque nous ne le serions qu'extérieurement sans l'être par l'esprit, nous serions comme des riches qui demandent l'aumône. Plaise au Seigneur qu'il n'en soit pas ainsi. Là où se présente le souci exagéré d'attirer les aumônes, on finit, un jour ou l'autre, par en prendre l'habitude. On ira jusqu'à demander ce qui n'est pas nécessaire et on peut être, le demandera-t-on à quelqu'un qui en a plus besoin que nous. Croyez-moi, mes filles, le Seigneur m'a donné, pour votre bien, quelque expérience des trésors cachés de la sainte pauvreté. La pauvreté est un bien qui renferme tous les trésors du monde. Elle donne un pouvoir immense. Elle nous rend maîtres de tous les biens d'ici-bas, dès qu'on les foule aux pieds. Qu'ai-je à faire avec les rois et les puissants de la terre si je ne recherche point leur fortune? Que m'importe de les contenter si je dois par là déplaire quelque peu à mon Dieu? Que me font les honneurs si je comprends bien que le plus grand honneur pour un pauvre est d'être réellement pauvre? Comprenez bien ceci. À mon avis, les honneurs sont toujours suivis de quelque attachement aux richesses. C'est merveille de voir dans le monde un pauvre qu'on honore. La vraie pauvreté, celle qu'on suit pour Dieu seul, entraîne avec elle une honorabilité qui s'impose à tous. Elle n'a que Dieu seul à satisfaire. Il a été composé beaucoup d'écrits sur cette vertu, aussi je m'arrête. J'ai écrit seulement ce que j'ai vu. Nos âmes sont dans la sainte pauvreté. Au début de notre saint ordre, nos pères l'estimaient tellement qu'ils ne se réservaient rien d'un jour à l'autre. Si nous ne gardons pas cette règle avec autant de perfection, gardons-la en nous-mêmes. Quand il n'y aurait pas d'autre récompense que de suivre un conseil de notre Seigneur, ce serait encore un magnifique salaire que d'imiter le Christ. Voilà les armes qui doivent figurer sur nos bannières, que tous s'y conforment, couvents, habits, paroles et surtout nos pensées. Tant que vous serez fidèles à ce principe, ne craignez rien. La perfection de cette maison grâce à Jésus durera. Comme le disait sainte Claire, ce sont de vaillants remparts que ceux de la pauvreté. C'était de ces remparts et de ceux de l'humilité qu'elle voulait voir ses couvents entourés, et non par de somptueux édifices. N'en construisez jamais de tels, je vous le demande, pour l'amour de Dieu et le sang de son Fils. Il paraît très mal, mes sœurs, de construire de grandes maisons, avec le bien des pauvres. Que votre maison soit pauvre, toute petite. Mettons Jésus en quelque chose. Il n'a eu que l'étable de Bethléem, où il est né, et la croix sur laquelle il est mort. Pour 13 pauvres petites religieuses, le moindre coin suffit. Si vous avez un jardin, puisqu'il est nécessaire à l'étroite clôture, ou vivez ici même, dans le but de favoriser l'oraison, vous bâtissez quelque ermitage pour y prier, je l'approuve. Mais de vastes bâtiments, des ornements superflus, que Dieu vous en préserve. N'oubliez jamais que tout doit s'écrouler au jour du jugement. Et savons-nous si ce jour n'est pas proche? Il ne convient pas que la demeure de 13 pauvres petites religieuses fasse beaucoup de bruit en s'écroulant. Les vrais pauvres ne doivent pas faire. Ils doivent vivre sans éclat pour attirer la compassion. Quelle ne serait pas votre joie si vous saviez quelqu'un préservé dans l'enfer à cause d'une aumône qui vous aura été faite? Vous êtes d'ailleurs obligé de prier pour vos bienfaiteurs d'une manière constante, puisqu'ils vous donnent de quoi subsister. Ne négligez jamais cette obligation. Ainsi soit-il. Chapitre 3. Ce chapitre continue le précédent, les miracles de la pauvreté, et exhorte les sœurs à prier pour les défenseurs de l'Église de Dieu. Je vous demande de travailler à être digne d'obtenir deux choses de Dieu. D'abord, que beaucoup de ces personnages savants et religieux possèdent les qualités nécessaires pour ce combat, et que Dieu accorde ces qualités à ceux qui ne les ont pas encore toutes. Un seul homme parfait est plus utile qu'un grand nombre d'autres qui ne le sont pas. Ensuite, une fois dans la lutte, que ces hommes soient assistés par Dieu afin qu'ils se gardent contre les dangers du monde. Chapitre 4. Exhortation à garder la règle et énumération des trois qualités importantes pour la vie spirituelle. L'amour que les sœurs se doivent les unes aux autres, le détachement de toutes les créatures et la véritable humilité. Que devons-nous pas faire, mes filles, pour ne point passer pour téméraires aux yeux de Dieu et du monde? Nous devons évidemment travailler beaucoup. Si nous veillons à suivre notre règle avec exactitude, j'espère que dans sa bonté, Dieu exaucera nos prières. La règle primitive de notre ordre nous dit de prier sans cesse. Ne négligeons rien pour remplir ce devoir et observons les jeûnes, les disciplines et le silence. Avant de vous parler de l'horizon, je veux signaler certaines choses utiles à celles qui suivent ce chemin. Mes sœurs, ne croyez pas que je vais vous recommander la pratique de beaucoup de choses. Blessé à Dieu que nous fassions ce que nos pères ont prescrit et gardé par cette voie. Ils ont mérité le nom de saints, n'en cherchons pas un autre. Nous devons observer trois choses. D'abord, l'amour que nous devons avoir les unes pour les autres. Puis le détachement de toutes les créatures. Enfin, l'humilité véritable, vertu embrassant toutes les autres. Chapitre 5. Ce chapitre expose l'amour du prochain et le danger des amitiés particulières. L'amour profond que nous devons avoir les unes pour les autres est chose fort importante. Il n'y a rien de très pénible à supporter qui ne devienne facile à ceux qui s'aiment. Il faudrait que ce fût bien pénible pour leur causer une gêne. Si ce commencement de la charité était observé dans ce monde, comme il devait l'être à mon humble avis, il serait d'une aide puissante pour observer les autres. Mais on n'arrive jamais à observer ce précepte dans sa perfection. À première vue, l'excès ne paraît pas avoir quelque chose de mauvais parmi nous, et cependant il crée tant de maux et d'imperfections que personne ne le croira s'il n'en a pas été d'abord témoin. Le démon dresse par là toutes sortes de pièges. Les consciences trop peu parfaites vis-à-vis de Dieu sentent peu ces excès et les considèrent comme des actes de vertu. Mais celles qui travaillent à leur perfection se rendent compte très bien, car ils affaiblissent peu à peu la volonté et lui interdisent de s'employer entièrement à aimer Dieu. Pour moi, je crois que ce défaut est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. De là vient que toutes les sœurs s'aiment moins entre elles. On est touché par l'humiliation d'une amie. On désire posséder quelque chose pour lui donner, et souvent, c'est pour lui dire qu'on l'aime et lui exprimer des banalités, plutôt que pour lui parler de l'amour de Dieu. Je crois au contraire que ces excès sont suscités par le démon pour créer des parties dans les familles religieuses. Lorsque l'amour des sœurs tend à la gloire de Dieu, on le voit promptement. Leur volonté n'a pas pour guide alors la passion. Elles cherchent une aide pour vaincre les autres passions. Je voudrais que les amitiés de cette sorte fussent fréquentes, dans les grands monastères, mais dans cette maison, où nous ne devons être que 13. Toutes les sœurs doivent être des amies, toutes doivent s'aimer, se chérir et s'entraider. Pour l'amour de Dieu, qu'elles se gardent bien de ces amitiés particulières, si saintes qu'elles paraissent. Les amitiés de cette sorte produisent généralement l'effet d'un poison, même entre sœurs. Pour moi, je n'y vois rien de plus. Mais ces religieuses sont-elles unies? Par le sang, c'est pire encore, c'est une peste. Croyez-moi, mes sœurs, la conduite à tenir dont je parle peut vous paraître excessive et cependant elle cache une haute perfection et une paix profonde. Elle évite une foule de dangers pour les âmes qui ne sont point trop fortes dans la vertu. L'amour peut se sentir porté plus vers une sœur que vers une autre. Nous aimons le plus souvent la plus imparfaite, celle-ci est mieux douée du côté de la nature. Mais alors, défendons-nous fortement contre cette affection. Aimons les vertus et les qualités intérieures de cette sœur. Veillons à ne jamais faire cas de ses qualités extérieures. Ne laissons point, mes sœurs, notre cœur devenir esclave de personne. Si ce n'est de celui qui l'a racheté par son sang, car sachez-le, vous trouverez engagé dans les liens dont vous ne pourriez vous dégager. Ô grand Dieu, qu'elles sont innombrables les petitesses nées de ces amitiés particulières. Elles sont tellement enfantines qu'il faut en avoir été témoin pour le croire. Aussi, il n'y a pas de motif d'en parler. C'est une peste chez la supérieure. Il faut mettre un grand soin à faire disparaître ces amitiés particulières dès qu'elles se manifestent. Ce travail demande plus d'habileté et d'amour que de sévérité. Un remède puissant, c'est que les sœurs ne parlent ensemble qu'aux remarqués. La règle d'ailleurs nous prescrit de ne pas être ensemble, mais de demeurer chacune dans notre cellule. Qu'il n'y ait donc pas d'autre monastère de Saint-Joseph, une salle commune de travail. Bien que ce soit là une coutume louable, le silence est mieux gardé, quand chaque sœur se tient chez soi. Voilà, on s'habitue à la solitude qui facilite au plus haut point l'oraison, car l'oraison doit être le ciment de cette maison. Nous devons en rechercher la pratique. Je reviens à l'amour que nous devons avoir les unes pour les autres. Il ne vous paraîtra pas nécessaire de vous le recommander. Quels sont les hommes aussi barbares soient-ils qui ne s'aimeraient pas s'ils devaient toujours vivre ensemble, de la même compagnie, sans jamais parler, avec des personnes du dehors? De plus, la vertu n'a-t-elle pas toujours l'amour pour soi? Aussi, j'espère que cette vertu sera toujours pratiquée par les sœurs de ce monastère. Je n'ai donc pas à insister sur ce point, mais quel doit être alors l'amour vertueux que je veux voir régner entre nous? Quel signe reconnaîtrons-nous que nous possédons cette vertu, que le Seigneur recommandait tant à ses apôtres? Ce que je vais vous dire en quelques mots. Il y a deux sortes d'amour. Je veux parler de l'amour spirituel où la passion ne participe pas, comme entre confesseur et pénitente. Cependant, si on découvre chez le confesseur quelques sentiments vains, qu'on avoue ses fautes en peu de mots et qu'on s'éloigne, il est bon alors d'avertir la prieure que ce confesseur ne convient pas à notre âme. Dans ce cas ou dans d'autres situations où le démon chercherait à nous séduire par ses ruses, le mieux est de parler à un homme savant. Que d'erreurs sont faites dans le monde parce qu'on ne demande pas de conseils. Surtout quand la réputation du prochain est en cause. Trouver un remède est une nécessité. Quand le démon commence à nous attaquer sur ce point, il faut l'arrêter au plus vite. Le conseil que je vous donne est primordial. La vanité d'avoir tel ou tel confesseur est l'enfer, la perte de beaucoup de religieuses. N'attendez pas que le mal soit à son paroxysme. Arrêtez-le dès le début. Utilisez tous les moyens que votre conscience vous dictera. Toutefois, Dieu, dans sa bonté, ne permettra pas, je l'espère, que des religieuses adonnées à une raison continuelle puissent s'attacher à un professeur qui ne soit pas un de ses bons serviteurs. Cela est sûr. Ou alors, ce ne sont pas des âmes de raison qui recherchent la perfection. Quand elles verront qu'il n'entend pas ce qu'elles lui disent, elles ne pourront l'aimer, car il est trop dissemblable d'elles. Puisque j'ai commencé à traiter ce sujet, je dis que le mal que le diable peut faire ici est très grand. On ne s'en aperçoit que très tard. Et voilà pour quelle raison la perfection peut disparaître d'un couvent, sans qu'on comprenne la raison. Celui qui devrait les rassurer est celui qui les trouble. Chapitre 6. Ce chapitre continue la question des confesseurs et expose combien il est important qu'ils soient très instruits. Je supplie celle qui sera supérieure de toujours veiller à maintenir la sainte liberté, de se confier à d'autres qu'aux confesseurs ordinaires. Mes sœurs, vos œuvres et vos oraisons doivent nécessairement reposer sur un solide fondement. Une bonne conscience est la première pierre de ce fondement. Il faut vous délivrer même des péchés véniels et aspirer à plus de perfection. Vous croirez que tout confesseur sait cela? C'est une erreur. J'ai traité des affaires de mon âme avec l'un d'eux qui avait fait toute sa théologie. Il me fit un grand tort en me disant que certaines choses mystiques n'étaient rien. Il ne voulait pas me tromper, il n'en savait pas plus. Notre seul bien, c'est la lumière, qui qui nous est nécessaire pour garder parfaitement la loi de Dieu. C'est là la base solide de notre raison. Si vous n'avez pas la liberté de vous confesser à des hommes instruits, et s'il n'a pas ce fondement, l'édifice porte à faux. Nous avons aussi pensé que le vicaire et le confesseur n'auraient pas la liberté d'entrer à leur gré dans leur monastère, leur mission étant de veiller à la bonne renommée et au recueillement de la maison. Ils doivent avertir le supérieur s'ils remarquent quelque faute. Telle est non seulement ma façon de voir, mais celle de l'évêque, sous l'obédience de qui nous sommes placés. C'est un grand serviteur de Dieu, ayant beaucoup de piété et de sainteté. Il se nomme Don Alvaro de Mendoza. Il a à cœur tout ce qui peut favoriser cette maison. ثم فاطت الوالدة وصاحت آه يا ولدا حبيبي حبيبي يا ولدا خاطب كيف رقى عريان ولا أنت باك يا ابني أوجاعك حرقت أكبادي كيف تحيا والدتا يا ولدا بعد موتا يا أم يسوع بنت الباب الأكرم يا عروس الروح القدوس الأعظم أشركينا بآلام فدينا زينينا بنعمة بارينا لنخدمك على الدوام مدى